Je pense que les générations qui viennent vont avoir une vie beaucoup plus difficile que la nôtre parce qu'ils vont être très pénalisés par toutes les erreurs qu'on fait de manière répétitive. On produit 3000 nouveaux composés chimiques chaque année qu'on lâche dans l'environnement, des composés pour lesquels 99% d'entre eux ne sont même pas évalués.
C'est pour ça que c'est difficile de trouver du miel certifié biologique dans des coins comme la Montérégie parce qu'il n'y a pas beaucoup de raccoins et qu'il n'y a pas de pesticides.
Les gens avant lavaient leur voiture régulièrement parce qu'il y avait trop d'insectes collés dessus. Dans certains endroits, ils la font une fois par été maintenant. Et donc, c'est parce qu'il y a beaucoup moins d'insectes. Et ça, c'est très inquiétant.
Près de la moitié des insectes sont en voie de disparition partout dans le monde. On assiste présentement à une extinction de masse lourde en conséquence. Les abeilles, les monarques et les coccinelles, des espèces qu'on connaît bien, font partie de la liste. Pendant combien de temps pourrons-nous encore les observer? Qu'arrivera-t-il si les abeilles venaient à disparaître? Sommes-nous, nous aussi, menacés de disparition?
Vous écoutez Radio Campus.
Vous écoutez Radio Campus.
Vous écoutez Radio Campus.
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 Vous écoutez Radio Campus, le balado du Montréal Campus.
Les insectes auront bientôt disparu du ciel, de la terre et de l'eau si on continue à ce rythme. Pourtant, les insectes sont primordiaux pour le bien-être de l'écosystème. Ils constituent la nourriture de base de plusieurs oiseaux, mammifères et poissons, éliminent les déchets, recyclent les nutriments et pollinisent 99,5% des 219 000 espèces de plantes qui comptent sur la pollinisation pour assurer leur survie. En fait, sur nos 115 principales cultures à l'échelle mondiale, 87 de ces cultures, soit 75%, sont dépendantes de la pollinisation des insectes. Dans le cas des abeilles, on entend souvent qu'elles sont nécessaires à l'humanité. Est-ce un mythe ou une réalité? Pour répondre à cette question existentielle, je suis allée à la rencontre d'Éric Lucas, entomologiste et professeur à l'UQAM, ainsi que propriétaire d'un laboratoire de lutte biologique.
C'est pas tout à fait vrai. Presque toutes les cultures vivrières sur la planète, c'est-à-dire le riz, le maïs, le blé, l'orge, etc., sont des cultures qui sont indépendantes des pollinisateurs. Donc si les abeilles disparaissaient, on pourrait continuer à survivre, à manger, etc. Mais par contre, on perdrait pratiquement toutes les cultures fruitières. On perdrait une bonne partie des cultures maraîchères. Donc presque plus de légumes, on n'aurait plus de fruits ou pratiquement plus de fruits. Donc la vie serait très triste en fait.
On compte trois grandes explications de la diminution du nombre d'insectes. La perte d'habitat due à l'activité humaine, comme la déforestation, les changements climatiques, qui augmentent le nombre de catastrophes naturelles et qui causent la migration de plusieurs espèces d'insectes ravageurs, et la dernière cause, et non la moindre, l'utilisation de pesticides en agriculture. On a beaucoup entendu parler des néonicotinoïdes, aussi appelés tueurs d'abeilles. Mais maintenant, c'est le chlorantraniliprole qu'on commence à pointer du doigt. Mais pourquoi? Que font ces pesticides si dommageables pour les insectes?
Il y a des pesticides qui s'attaquent aux œufs, d'autres aux larves, d'autres au stade adulte. Il y a des pesticides qui sont des neurotoxiques. Il y en a d'autres qui vont empêcher les insectes de produire leur nouvelle cuticule parce que les insectes doivent faire des mues récurrentes. Donc, le problème, en fait, c'est qu'on a créé, je pense, une dépendance aux pesticides. Le chlorantraniliprole, pour ne parler que de celui-là, il est proposé pour remplacer les traitements de semences aux néonicotinoïdes. Mais le chlorantraniliprole, on sait déjà qu'il est extrêmement toxique pour les invertébrés aquatiques, donc c'est sûr qu'on va avoir des problèmes avec, c'est absolument certain.
Par problème, Éric Lucas veut dire que s'il y a moins d'insectes aquatiques, il y a moins de nourriture pour les poissons ou les grenouilles, par exemple, ce qui bouleverserait l'écosystème en diminuant sa biodiversité. Selon une étude réalisée par des chercheurs en entomologie au Québec, seulement 4% des grandes cultures nécessiteraient l'utilisation de semences enrobées, comme les néonicotinoïdes ou le chlorantraniliprole, alors que tous les agriculteurs en utilisent. Et l'agriculture biologique dans tout ça, peut-elle s'avérer une solution efficace pour la conservation des insectes? Afin de répondre à cette question, Mathilde et moi nous sommes rendus au Jardin du Chat Noir, une ferme biologique dans le coin de Bedford.
Merci. Fait que moi, c'est Amélie Bourbonnet, je suis copropriétaire des Jardins du Chat Noir. Nous, en fait, on est en production maraîchère principalement, donc c'est des légumes diversifiés.
Pour être certifié biologique, une ferme doit satisfaire une longue liste de normes canadiennes. Mais il faut aussi savoir que les agriculteurs bio peuvent utiliser des pesticides, tant qu'ils sont naturels, comme le soufre, l'argile ou même la mélasse. J'ai demandé à Amélie Bourbonnet si elle pensait que tous les agriculteurs devraient opter pour l'option bio.
On est plusieurs à penser comme quoi que dans la vie, ça devrait pas être normal d'être en conventionnel puis exceptionnel, d'être en biologique au point de devoir faire de la paperasse, de l'étiqueter, de payer pour. Ça devrait être le contraire. Tu regardes le sol d'une terre en conventionnel puis la nôtre, puis c'est le jour et la nuit, là. C'est comme... c'est la terre puis la lune, là, tu sais. Non, il y a plus de vers de terre, il y a plus de... Il n'y a plus rien, tu sais, il n'y a pas de vie dans le sol. Nous autres aussi, c'est une chose qui est super importante pour nous, tu sais. Il y a tous les insectes en aérien, puis il y a tout ce qui est dans le sol, qui est extrêmement important, tu sais. Puis c'est certain que tous ceux en chimique, mais les autres, leur sol, il est pauvre, là, il n'y a rien. C'est comme c'est du pain blanc, là, tu sais.
Mais si les pesticides rendent la terre si pauvre, pourquoi est-ce qu'on continue à les utiliser?
On est pogné dans un système, tu sais, depuis les années 50, dans le fond, là, avec ça, là. C'est des agriculteurs qui font ce que leurs parents, ils faisaient. Fait que souvent, les gens, ils héritent ou ils rachètent des terres de leurs parents, mais ils sont très, très grandes. Fait que là, tu sais, OK, un gros tracteur pour réussir à travailler tout ça. Si tu regardes à peu près l'âge de nos grands-parents, tout ça, ceux qui, années 30-40, tout ça, ben ça travaillait comme des fous sur les fermes, là. Ben, c'est nous aussi encore, là. Mais tu sais, je veux dire, quand tu retournes justement en méthode naturelle comme ça, ben oui, c'est beaucoup d'heures de travail. Puis après ça, ben j'imagine que t'as vu la génération d'après qui tu te fais dire, ben il y a un produit qui va t'aider puis qui va te sauver bien du temps. C'est clair que, tu sais, ils ont embarqué là-dedans, puis... Tu sais, ça a comme créé une génération un peu victime de ça.
On devrait faire des études sur toutes les plantes qu'on a ici, les étudier, les voir, regarder le potentiel attractif, répulsif, les tester en champ, etc. Ça aussi, si on pouvait l'utiliser, ça nous donnerait des outils pour être capable de réduire les problèmes, des outils naturels. Mais le problème, c'est que là, il n'y a pas de brevets qui vont en arrière avec ça. Là, c'est du biologique, on ne peut pas faire de brevets. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de compagnie vraiment intéressée par ça. Ça, c'est l'autre problématique. Il faut que tout se vende. Si ça ne se vend pas, c'est pas... Et je veux dire, je crois qu'on doit sortir de cette équation qui est une équation toxique, là, si on en propose quelque chose d'à peu près cohérent et correct, là. Et je suis sûr que les gens le feraient.
En gros, Éric Lucas explique que peu d'argent est investi dans la recherche de solutions alternatives aux pesticides. Il pense que les barrières végétales et d'autres moyens non chimiques pourraient protéger les insectes dont nous avons besoin, tout en produisant de belles récoltes. Ces solutions-là vont aussi permettre aux cultivateurs de revitaliser leurs terres agricoles. Comme le dit Amélie, il est évident que les agriculteurs ne peuvent pas changer leurs habitudes du jour au lendemain. Mais nous, en tant que citoyens, est-ce qu'on peut faire partie du changement? Oui. En acceptant de manger des légumes moches, en achetant biologique ou en cultivant notre propre potager sans pesticides chimiques, nous pouvons influencer les autres et encourager les fermes qui s'affairent à changer le modèle conventionnel en agriculture. Ça peut sembler utopique, mais c'est en étant solidaire qu'on peut participer à la sauvegarde des insectes d'ici.